Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Au cœur de la cité, dans un fond de cour, au bout d'un long couloir, se trouve un atelier d'imprimerie. Toute la nuit, Théophraste, aidé d'un homme souriant, un voisin, a manœuvré la presse à bras. Que veut-il donc faire ? Eh bien, tout simplement, créer un journal, on dit à l'époque une gazette. Nous sommes le 30 mai 1631. Le premier numéro sort et pendant 22 ans, chaque semaine, il en sera de même. Il va imprimer lui-même son journal dans son imprimerie, dans sa maison, qui est devenue un centre intellectuel, un rendez-vous de tous les curieux des choses de la société, de la politique, de l'esprit. Il va aussi imprimer des conférences scientifiques. Et avant de faire paraître la gazette, Théophraste a eu l'idée de faire crier dans la ville que, justement, elle allait paraître. Il a le sens déjà de la publicité. Des feuilles volantes l'ont annoncé, on l'a affiché partout. Alors, comment se présente cette première gazette ? Eh bien, 4 feuilles, sans un sous-titre, une marge étroite, dans laquelle figurent en italique des dates. Exemple. De Constantinople le 2 avril 1631, ou alors encore de Rome, d'Espagne, de Portugal le 26 avril, d'Anvers le 24 mai, et je ne vous nomme pas tous les pays. Pas une seule nouvelle de France, et autre bizarrerie pour notre époque, pas de signature. Les feuilles sèchent un peu au hasard sur les meubles, les 3 premiers tirages sont réservés, ben évidemment, l'un au roi, l'autre au cardinal de Richelieu et le troisième au père Joseph, l'éminence grise du cardinal. Et ce père Joseph devine tout de suite que la gazette sera demain une arme puissante dans la bataille pour le pouvoir. Nous voici donc avec le premier journal français. Le premier article concerne Constantinople où le roi de Perse fait la guerre aux fumeurs. Le deuxième fait état de rumeurs de guerre en Haute-Allemagne. Rien que des nouvelles de l'étranger d'ordre diplomatique, guerrier ou scientifique. Dès le 23 novembre 1631, eh bien la gazette a un tel succès que le format double. Les 4 premières pages sont consacrées à la vie politique, économique, littéraire et scientifique en France cette fois-ci, et les quatre autres destinées aux nouvelles ordinaires de divers endroits. Les 8 feuilles se vendent un sou. Chaque jeudi, réunion des amis qu'on peut appeler pour, on va dire, une foire aux idées. La Gazette paraît le lendemain. C'est seulement au 6e numéro qu'on trouve les nouvelles de France. Alors, je vous donne un exemple. Le 2 juillet, nouvelle de Saint-Germain-en-Laye. Le roi boit de l'eau minérale, conseillé par son médecin. Toute la cour suit. De Paris, le 3, des fiefs continus font des ravages. On continue à imprimer la grande Bible en 9 volumes et en 8 langues. À la fin de l'année 1631, Théophraste réunit les 31 numéros en un seul volume qu'il intitule « Recueil des gazettes de 1631 ». Il le fait précéder d'une dédicace au roi et d'une préface au public, dans laquelle on trouve un exposé remarquable de la situation géographique et historique de l'Europe. En février 1632, le succès de la Gazette est complet. Renaudot envoie son premier recueil à 247 personnes en guise de cadeau pour le nouvel an en 1632. En particulier, et ça c'est important, à messieurs les maîtres de la Sorbonne, parce qu'ils ont refusé de souscrire à la Gazette. Bientôt, il y a 32 pages au journal. À partir de 1634, les Gazettes sont reliées en fin de chaque année. De numéro en numéro, la typographie du titre change. Les lettres initiales sont ornées. On voit par exemple des étoiles dans la boucle du G, des fleurs grimpantes qui poussent le long des jambages des deux T. Vous vous doutez bien qu'une entreprise de cette importance ne manque pas de détracteurs, de jaloux et même, on peut dire, d'ennemis. Si bien que des contrefaçons naissent à Rouen, à Lyon, des titres étrangers apparaissent, par exemple, l'anti-gazette sur le nez de Renaudot. Je vous rappelle qu'il avait un vilain nez. À partir de 1632, Théophraste défend avec acharnement les écrits de sa gazette dans des suppléments. De toute façon, il a l'appui du roi par une charte accordée lui donnant à lui seul le droit d'imprimer et de vendre. Si bien que la gazette, on peut dire, devient l'organe officiel du gouvernement. Qui collabore ? Eh bien, figurez-vous, le roi et Richelieu, qui envoie des textes à imprimer. Et le père Joseph lui intervient de quelle façon ? Eh bien, il note, il corrige, il ajoute, il censure. Le cardinal, qui est très attaqué, contre qui se multiplient les pamphlets, use de la gazette comme une arme pour répondre à ses ennemis. Le roi s'en sert, lui, pour batailler contre sa mère et sa femme. Et pour déjouer les intrigues que toutes les deux font. Parmi les premiers collaborateurs de Renaudot, on trouve un héraldiste qui s'appelait Dauzier. Il est très connu, il correspond avec toute l'Europe et par lui, évidemment, on a beaucoup de nouvelles. Figurez-vous qu'en plus des articles de fond, on voit dans la gazette des petites annonces, comme maintenant. Et parmi celles-ci, je vais vous en lire une. L'abbaye de Miremont, en Lorraine, où sont les plus nobles et les plus belles demoiselles à marier. La Gazette n'est pas l'unique publication qu'ait créée Théophraste Renaudot. Vous vous souvenez du bureau des adresses dont je vous ai parlé la semaine dernière? Il faut se déplacer pour trouver ce que l'on cherche. Eh bien maintenant, Théophraste édite la feuille du bureau des adresses. La feuille est portée maintenant à domicile. Son premier numéro est du 1er juin 1632. L'abonné à la gazette s'abonne aussi à la feuille du bureau d'adresse. Quelquefois, cette feuille annonce un fait qui ne l'a pas été dans la gazette. Par exemple, un tremblement de terre. Cette feuille du bureau d'adresse nous renseigne aussi sur la vie et les mœurs de l'époque. Voici une annonce. Terre seigneuriale à vendre. Une terre seigneuriale en Châtellenie avec toute justice à 4 lieues en deçà d'Orléans, dans la forêt, consistant en un beau château bien logeable, des terres, des vignes, et puis droits de pêche et de chasse, plusieurs métairies, des rentes. Elle est de 2000 livres de revenus, mise à prix 60 000 livres. Et dans une autre annonce de maison à vendre, on peut lire qu'il y a un colombier, des arbres fruitiers et d'excellentes vignes à Créteil. Eh oui, il y avait un petit vin par là. À Paris, deux maisons avec écurie pour 5 chevaux. Et relativement à une maison sise vers la montagne Sainte-Geneviève, il faut que celui qui prendra ce logis veuille tenir des pensionnaires afin d'acheter les 20 lits qui s'y trouvent. Dans ces annonces du 17e, on trouve celle-ci très actuelle. On demande compagnie pour aller en Italie dans les 15 jours. Partage des frais. C'est Blablacar. Depuis février 1635, un privilège du roi assure à Théophras Renaudot, outre le monopole de la Gazette, celui de tous les autres papiers, d'avoir sa propre imprimerie et ses propres colporteurs. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot, qui vient d'inventer le premier journal, La Gazette. Il publie en plus Relations des Nouvelles, Les Extraordinaires. Par exemple, dans cette dernière, on trouve une relation de l'enterrement du roi du Danemark ou encore la prise de la belle île de Curaçao aux Indes par les Hollandais et les Espagnols. Ou encore, arrêt de la cour de parlement par lequel le prétendu mariage de monsieur avec la princesse Marguerite de Lorraine est déclaré non valablement contracté. Ou encore, une liste des prédicateurs qui doivent prêcher l'avent dans la ville et les faubourgs de Paris. Il existait une série de volumes publiés par les imprimeries Richer depuis 1605. En 1638, Théophraste reprend cette série qui s'appelle « Le Mercure français ». Lorsqu'il publie le 22e tome, on peut lire « Suite de l'histoire de notre temps, sous le règne du très chrétien roi de France et de Navarre, Louis XIII ». Il devient ainsi l'historiographe du roi. Lors de la parution du Mercure français, les ennemis de Renaudot écrivent des pamphlets, quitte à mentir bien sûr, comme Théophraste se rend à Compiègne par exemple. Les mauvaises langues disent que c'est pour obliger le maréchal de Gramont, quand je dis obliger, ça veut dire l'aider et lui rendre hommage, qui a demandé à Renaudot d'écrire sa biographie en, évidemment, l'exaltant, alors que le maréchal, disent les gens, ses ennemis tout au moins, gagne toujours en fuyant et qu'il est plus heureux au jeu qu'à la guerre. Théophraste, finalement, n'a pas écrit une vie du tout du maréchal de Gramont, mais une autre sur le prince de Condé, une du frère de Mazarin, une du maréchal de Gassion. C'est la seule qui nous reste. C'est un récit plein de chaleur et plein d'entrain. Finalement, Théophraste a un très beau style. En plus d'écrire et publier, Renaudot organise des conférences. Alors, je vous cite quelques sujets des conférences, c'est assez amusant. Du vin, est-ce qu'il est nécessaire aux soldats ? Ou encore, est-ce qu'il est plus aisé de résister à la volupté qu'à la douleur ? Ou combien peut être l'homme sans manger ? Pourquoi personne n'est content de sa condition ? Est-ce que les cieux sont solides ou liquides ? Est-ce que les couleurs sont réelles ? Est-ce qu'il vaut mieux bien parler que bien écrire ? Tous ceux diplômés ou pas dans les sciences et les arts peuvent intervenir, mais ils doivent écouter les avis des autres. La condition, qu'on n'y parle que français, afin de cultiver notre langue, pas de latin. Ça rappelle un petit peu la Pléiade, tout ça, hein. Théophraste ajoute que toute discussion politique et religieuse est interdite. Eh bien, rapidement, il y a trop d'orateurs, alors il faut en limiter le nombre. En 1636, ils sont invités à prendre un numéro d'ordre, comme dans l'administration française. On tire un ticket. Ces conférences sont publiées. 5 gros volumes allant de 1633 à 1650. On les possède. En 1634, se tiennent les assises des grands jours de l'éloquence. Beaucoup de personnes viennent y exposer des requêtes grammaticales et linguistiques. Par exemple, un certain Bocan demande que le bail à ferme n'ait pas de pluriel si le mot « bal » pour danser n'en a pas aussi. À côté des joies que peuvent lui donner toutes ces spéculations intellectuelles, Renaudot a bien des difficultés à vaincre, même s'il est soutenu, à vaincre ses ennemis. Il est soutenu par Richelieu, mais ce dernier est haï de la noblesse. Vous vous rappelez, il a interdit les duels. Il est méprisé par la reine, il est toléré par les religieux qui vivent dans l'entourage du roi, et il est craint par le peuple. Il ne donne sa sympathie que très rarement. Parce que Richelieu connaît bien les hommes, il s'en méfie. Avec raison, car dès son avènement aux affaires publiques, il dénonce les flagorneries, il méprise les inutiles et les pédants, et il brime les seigneurs, par exemple, en interdisant les duels. Si bien qu'il y aura plein d'attentats contre lui et qu'il doit s'employer, bien sûr, à les déjouer. Il est tout de même, on peut dire, un homme immense, entièrement dévoué à l'État. Il n'a que peu d'amis. Eh bien, dans ses amis, on compte évidemment le père Joseph, qui est son éminence grise, et Renaudot, qui a ses faveurs. Les démêlés des armées, nos victoires, nos échecs, tout ce qui touche à cette guerre de 30 ans, qui a été lancée par Richelieu, est relaté dans la Gazette. Un communiqué tient les populations civiles au courant des opérations militaires. Ajoutons que ces communiqués débordent d'optimisme. Plusieurs fois, Renaudot est envoyé en mission confidentielle sur le front des troupes. Et d'autres fois, il s'y rend pour son propre plaisir, simplement pour voir et rapporter à ses lecteurs les impressions des combats dont il est le témoin. Le correspondant de guerre est inventé. Les relations sont vivantes, imagées encore qu'elles ne soient pas toujours exactes. Mais Renaudot a compris admirablement le journalisme. Il dit, et je le cite, « En une seule chose, ne le céderai-je à personne en la recherche de la vérité, de laquelle néanmoins je ne me fais pas garant, étant malaisé qu'entre 500 nouvelles écrites à la hâte, d'un climat à l'autre, il n'en échappe quelqu'une à nos correspondants qui mérite d'être corrigée par son père le temps. » Le peuple de Paris alors commence à s'agiter quand il apprend que les armées étrangères sont entrées en Bourgogne. Et le peuple, évidemment, en rend Richelieu responsable. Ce dernier, alors, convoque le père Joseph et Théophraste. Le peuple ne m'aime pas, moi qui travaille pour la gloire de Dieu et le bien de l'État, dit-il. Que faire ? Un seul moyen, dit Renaudot. Eh bien, dites, l'invite le cardinal. Sortez, montrez-vous à la ville, qu'on vous voit partout, avec un visage calme, heureux même, souriant, désarmez la défiance de vos ennemis et ceux qui ne vous auront pas vu ne tarderont pas de savoir par les autres que votre éminence n'affiche aucune inquiétude sur le sort de nos armées et sur la victoire finale. » Eh bien, Richelieu, il écoute le conseil. Le même jour, il voyage beaucoup dans la ville, affectant une grande sérénité, dévisageant bien tous ceux qui s'inclinent au passage de son carrosse. L'impression est immense. Comme l'a prévu Renaudot, il n'est question le soir dans tous les carrefours de Paris que de l'attitude rassurante du cardinal. La situation militaire devient moins inquiétante, elle se rétablit, et les communiqués de Renaudot peuvent sans crainte déclarer que les armées du roi poursuivent l'ennemi ou conservent partout leur position. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot, qui vient d'inventer le premier journal, la Gazette, et qui donne même des conseils à Richelieu. Je vous ai dit que Louis XIII collabore aussi à la Gazette. Parfois, il lui arrive de se voir refuser sa copie. C'est vraiment mauvais. Tout attaché qu'il soit à sa Gazette, Renaudot poursuit, vous vous rappelez, sa vie charitable. Pour lui, il n'y a pas de pauvreté plus à plaindre, que celle des malades. Alors, il s'attache à leur donner des traitements. C'est pas facile, car en ce milieu du XVIIe siècle, la faculté, quand je vous dis la faculté, c'est la faculté de médecine de Paris, est rigoureusement fermée à toute idée nouvelle. Elle en est restée à Hippocrate ou bien à Galien. Je vous rappelle qu'à l'époque, Harvey, par exemple, en 1622, a découvert la circulation sanguine. Azelli a montré les lymphatiques dont Pequet plus tard établira les véritables cours. Eh bien, parmi les médecins de la faculté de Paris, il trouve ce pauvre Théophraste sans arrêt des contradicteurs acharnés, même parmi ce qu'on appelle les savants de cette faculté, et en particulier un certain vilain monsieur qui s'appelle Patin, qui répand les pires injures sur ces hommes qui illustre utilement la médecine. Même l'illustre Amboise Paré n'échappe pas à sa vindicte. Ce Patin va haïr Théophraste. Il va le calomnier, dire les pires mensonges pour abattre cet homme qui ose guérir avec une médecine qui est moins dogmatique que la médecine officielle de la faculté de Paris. Renaudot, lui, donne de son temps et de sa fortune pour soulager les douleurs de ses semblables sans rien demander en retour. Il écrit des articles sur ses patients, il dénonce l'incurie de la faculté, s'élève contre le petit nombre de médecins qui exercent à Paris, contre le prix exorbitant des médicaments. Il prend alors le taureau par les cornes. Puisque les hôpitaux sont inefficaces, eh bien, il va faire construire, accolé à sa maison, le premier dispensaire. Son succès est énorme. Même des médecins de Montpellier viennent l'aider. Ceux de Paris, évidemment, ne veulent pas. Ils n'ont que mépris pour ces médecins montpelliérains, trop modernes à leur goût. En 1640, Renaudot perd sa seconde femme, et cette même année, Louis XIII consacre officiellement les consultations charitables de Théophraste. Ça ne plaît pas du tout aux médecins de la faculté parisienne, qui vont jusqu'à accuser le roi d'être possédé du démon. Et ils veulent empêcher Renaudot d'exercer la médecine parce qu'il n'est pas diplômé de la faculté de Paris, mais de celle de Montpellier. Louis XIII est obligé d'intervenir. La popularité de Renaudot grandit. Au début, les consultations ont lieu tous les mardis. Et maintenant, c'est tous les jours qu'il reçoit les pauvres malades. Malgré la défense de la faculté, les étudiants de Paris, gagnés à la cause de Théophraste, viennent travailler clandestinement avec lui pour s'initier à ses méthodes et à ses nouveaux médicaments. Richelieu s'intéresse passionnément à l'œuvre prophylactique et thérapeutique de Renaudot. Il donne même de l'argent pour que Théophraste déménage dans quelque chose de plus grand, par exemple aux Galeries du Louvre. Hélas, le 4 décembre 1642, le cardinal s'éteint. Je dis hélas parce que, une fois mort, Renaudot, évidemment, perd son soutien. Comble de malchance, le 14 mai 1643, Louis XIII s'éteint à son tour. Il n'a plus aucun soutien, plus de cardinal, plus de roi. Dès lors, la faculté de médecine de Paris va s'en donner à cœur joie pour anéantir ce novateur. Renaudot a 57 ans. Il a vieilli, mais il n'est pas d'homme à se laisser frapper passivement. Il a, pour lui, son passé de guérison et de charité. Le peuple de Paris est de son côté. Et il a surtout sa gazette. Renaudot va combattre, il ne va pas abandonner la partie. Pour forcer la main de la régente, Anne d'Autriche, Patin, son ennemi, et un autre ennemi, Charpentier, exhume un numéro de la gazette dans lequel Richelieu, pour les besoins de sa politique, avait fait insérer un court article dont la lecture peut dresser la reine contre Renaudot. Ça remonte à 1633. Renaudot répond par un plaidoyer admirable. Alors c'est admirable, mais c'est tellement long à lire que je ne vais pas vous le lire. Malgré cela, le 19 décembre 1643, un jugement est rendu qui interdit à Théophraste et à ses adjoints d'exercer la médecine, ni faire des conférences, ni de traiter ou de panser des malades. Un procès a lieu, une foule énorme envahit la salle pour le soutenir. Le public est vraiment favorable à Renaudot. Mais hélas, ses ennemis ont eu raison de son œuvre. L'université triomphe, il lui reste tout de même la gazette, mais il ne peut plus soigner le peuple. Le peuple de Paris se l'arrache chaque samedi, cette gazette. Il est aussi soutenu par ses deux fils, médecins eux aussi. Mais voici venir un personnage que Renaudot va rencontrer. Qui donc ? Mazarin. Il domine la régente Anne d'Autriche et il dirige la France. Il a été très bien éduqué par Richelieu. Seulement le peuple de Paris ne l'aime pas. Il se soulève, des barricades se dressent. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le gouvernement, c'est la régente, Anne d'Autriche, a fait arrêter les parlementaires, qui s'agitaient beaucoup, Blanc-Mesnil et Broussel. Mazarin veut qu'on lui confirme les bruits qui courent, que Paris s'agite, qu'il y a des barricades. Et il pense que le mieux renseigné, pour dire la vérité, c'est certainement celui qu'il appelle le gazetier. Et il fait venir Théophraste. Renaudot parle des rassemblements, du désordre qui règne dans la cité. Alors que veulent-ils ? Demande la reine. Eh bien, répond Renaudot, il crie « Liberté et Broussel ». La popularité de Broussel est très grande. Il siège au Parlement depuis le roi Henri IV. Il est pauvre, d'une probité sans égale. Anne d'Autriche, alors, veut faire envoyer la troupe. Théophraste intervient en disant qu'à son avis, il s'agit d'une véritable révolte. 1200 barricades se dressent alors dans Paris. Et les princes, par N. de Mazarin, encourage la sédition populaire. La régente, quand même chapitrée par Mazarin, donne l'ordre de libérer les parlementaires. La libération de Bruxelles donc calme les esprits des Parisiens, mais l'agitation continue au Parlement. La situation est si grave que le 6 janvier 1649, la reine, accompagnée de Mazarin, de ses enfants et de Renaudot, s'enfuit à Saint-Germain. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel, je vous raconte la vie de Théophraste Renaudot qui vient de rencontrer Mazarin. Paris s'agite beaucoup, si bien que la reine, les enfants, Mazarin et Renaudot s'enfuient à Saint-Germain. Quand je dis Saint-Germain, c'est Saint-Germain-en-Laye. Hein. Comment va fonctionner la Gazette alors? Eh bien, Mazarin conseille que les deux fils de Théophraste, Eusèbe et Isaac, prennent sa suite. C'est ce qu'ils font. Donc la Gazette continue à tourner. Enfin, on retourne à Paris. Renaudot, alors, doit faire face à des contrefaçons. Eh bien, le préjudice est grand, parce que ces contrefaçons sont vendues moins cher. Et pendant ce temps-là, la fronde des grands s'affermit. Les seigneurs et les parlementaires s'unissent contre Mazarin et le chancelier Séguier devient alors président du Conseil. Il comprend que Renaudot peut lui être tout à fait utile. Alors il lui propose de diriger les imprimeries de la cour. Eh bien, Théophraste refuse. Il refuse parce qu'aux avaries que lui ont fait subir le Parlement et l'université, s'est ajoutée la suppression de sa pension de commissaire général des pauvres, puisqu'on lui interdit de les soigner, les pauvres. Et voilà que déjà sexagénaire, Renaudot convole en troisième noce, alors un mariage pas heureux du tout. Elle est jeune, elle le trompe abondamment, si bien que vieilli et solitaire, il se réfugie dans son petit logement du Louvre, auquel lui donne droit sa fonction officielle d'historiographe du roi. Deux attaques de paralysie l'ont déjà touché. Cependant, il continue d'écrire dans la Gazette sur Condé, qui vient de passer à l'ennemi, Dunkerque, laissé aux Anglais, le duc d'Angoulême, ami de Condé qui soulève le Midi. Au soir de sa vie, Renaudot n'a plus de rancune finalement pour ceux qui ont été le plus hostiles. Il dit qu'un chrétien doit pardonner. Le 23 octobre 1653, pour la dernière fois, il écrit dans sa Gazette en revenant sur le récit d'un combat où il a laissé passer quelques lacunes et il veut rectifier. une troisième attaque de paralysie l'enlève le 25 octobre 1653. Il a un très bel enterrement, auquel assiste une assistance nombreuse, quelques hauts dignitaires et tout ce qui porte un nom en littérature. Je ne vais pas terminer là-dessus, mais sur le prix Renaudot, qui est décerné donc tous les ans par des journalistes, et celui de 2021 a été attribué à Amélie Nothomb pour son livre « Premier sang ». Au revoir à tous.